3-3. Le prenant ensuite en quadrature, puis en trigone, puis en opposition, puis en sextile, sur le bras de la croix, dépendamment de toute planète, il vous sautera aux yeux la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait lorsqu'il est lui-même en quadrature à une planète. Forcément, vous faites un carré entre une planète et une autre dans un thème, mais cette quadrature se prend toujours au noyau, c'est-à-dire au centre de la croix. Nous avons l'habitude sur le cercle, n'est-ce pas, d'établir le carré par une ligne tangente, enfin une ligne qui va de la planète à l'autre, et nous disons ça, c'est carré. Mais en réalité, c'est un abrégé. La réalité, c'est le centre de la croix qui porte la charge. Toute la prise de conscience est là, sur le centre de la croix. Toutes nos prises de conscience sont au centre de la croix. Au centre de la croix se trouve la prise de conscience qui, se portant vers l'ascendant, nous donnera la prise de conscience du moi proprement dit. La prise de conscience montant vers la dixième maison, depuis le centre de la croix, va nous donner notre orientation, disons, vis-à-vis du monde et de la profession. Nous tournons maintenant, la prise de conscience du centre de la croix se tournant vers le nadir, va nous donner tout ce que nous savons et tout ce que nous vivons, de notre idée du passé et de l'idée de notre enfance et de notre, comment dirais-je, de notre foyer, de notre base, proprement dit, d'où nous sommes issus, et ainsi de suite. Mais avant de... Alors voilà, ce soir, la conférence sera essentiellement, si j'ai le temps, d'appliquer ce que je m'en vais dire dans la seconde partie du temps qu'il me restera, à reprendre ce que je n'ai pas fini et de loin de la Lune la dernière fois, eh bien, tant mieux. Mais l'essentiel, j'ai longuement mûri ça depuis 15 jours. J'ai mis ça aussi dans ma tête aussi précisément que je pouvais le saisir. Inutile de vous dire, j'ai eu par le marché, j'ai eu quelques visions supplémentaires là-dessus. Je ne me cache plus du tout de vous le dire maintenant. Et, alors maintenant, d'abord, je vous montrerai ces deux dessins. Ceci, c'est de l'astronomie. Rudement, c'est l'astronomie pure. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'occasion de consulter un ouvrage d'astronomie du système solaire, j'ai pensé qu'il valait la peine que vous suciez devant les yeux la vision, l'image du rapport de l'orbite de Pluton par rapport aux autres planètes. Ceci est tiré d'un ouvrage d'astronomie, ceci est tiré d'un autre. Alors, j'ai parlé l'autre fois de déclinaison, 17 degrés, d'excentricité, 27 degrés, je n'y reviens pas, mais voici exactement l'excentricité. Vous voyez qu'ici au centre, vous avez le Soleil, que la première orbite autour, la toute petite chose autour, c'est Mars, la Terre est encore plus à l'intérieur, que l'orbite ici, c'est Jupiter, que là, c'est l'orbite de Saturne, que ici, c'est Uranus, les proportions sont à peu près justes, elles sont justes naturellement dans le livre, mais enfin, M. Stoffel bravement fait ce qu'il a pu en le mettant ce soir au tableau noir. Et ici, l'orbite d'Uranus et de Neptune. Vous remarquerez que toutes ces orbites sont circulaires, ou à peu près, elles sont concentriques, et elles sont par surcroît, voilà l'orbite de Neptune, et toutes les planètes à l'intérieur, là, que nous n'avons pas mis pour gagner du temps, se trouvent toutes aussi sur le même plan. C'est le plan dit de l'écliptique, c'est le plan même de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Tout ça, c'est sur le même plateau. Tout ça, c'est sur le même plateau. Tout ça, c'est sur le même plateau de Neptune à Neptune au bout. Sauf, voilà l'orbite de Pluton en excentricité. Ici, son excentricité légèrement exagérée par rapport au plan de Neptune et des autres planètes et par surcroît la déclinaison. Voici les deux images astronomiques les plus simples que vous pouvez consulter ici au Palais de la Découverte. Vous pouvez consulter dans tout bon ouvrage le Larousse astronomique ou le Flammarion astronomique d'aujourd'hui. Vous avez certainement des gravures de tout ça. Enfin voilà les deux images fondamentales qui doivent vous servir votre intelligence quelquefois, lorsque vous frappez suffisamment pour comprendre les raisons, comment dirais-je, physiques de la structure du système solaire qui fait de Pluton ce qu'il est. En ce moment-ci, cette planète a coupé. Vous remarquez que là, la planète Pluton est là, a coupé l'orbite de Neptune et elle la recoupe ici. Et que ici, c'est ce que nous appelons le périhélie. Ici, c'est l'aphélie, le plus loin du Soleil. Remarquez que cette orbite de Neptune, c'est l'orbite qui est coupée. Parce qu'il ne s'agit pas de collision planétaire. Les distances sont encore énormes, et puis enfin, les déclinaisons sont là pour empêcher qu'il y ait des rencontres. Toujours est-il que cette orbite est coupée à peu près maintenant. 1957 ou 1958, par là autour, l'orbite de Neptune est coupée. Mais Pluton est plus proche du Soleil que l'orbite de Neptune l'est. Et il lâche cette orbite vers la fin du siècle. C'est précisément sa position à l'intérieur de l'orbite de Neptune qui lui donne sa gravité, son importance toute spéciale pour nous, à mesure que nous approchons du moment où cette orbite sera la plus proche du Soleil par rapport à l'orbite de Neptune, c'est-à-dire d'ici 20 ans, 25-30 ans maximum. Les grandes crises universelles que subira la Terre seront dues largement à ce fait. D'ailleurs, tous les 250 ans, cette planète se retrouve à cette position, puisque son temps de révolution est 249 ans à peu près, ils ont donc en gros 250 ans, qu'elle fait sa révolution 4 fois dans un millénaire, et que depuis la naissance de Jésus-Christ, elle aura fait maintenant 8 fois sa révolution. 8 fois sa révolution. Quand vous pensez que, aussi, une chose très importante, nous avons ici Saturne, vous avez l'orbite de Saturne. Or, si vous regardez ça du point de vue du Soleil, vous voyez que le Soleil est le centre de gravité sans effort de toutes les planètes concentriques. Mais vous pouvez vous imaginer le problème de garder l'équilibre de son centre de gravité, puisqu'il est aussi le centre de gravité de Pluton. Vous imaginez ce que représente le problème admirablement éloquent, exprimé d'une façon très éloquente, d'un astre central qui doit porter une hélice pareille. Et si vous pensez que le centre de gravité idéal pour une orbite qui est d'ailleurs elliptique, le centre de gravité idéal, si on pensait qu'on pourrait parler d'un seul centre au lieu de deux foyers normalement pour une ellipse, ce foyer, si la planète était circulaire, serait au-delà, le centre de gravité serait à placer au-delà de Saturne. Les réflexions que cela peut vous apporter, surtout avec l'expérience que vous avez à l'intérieur des thèmes humains, vous pourront comprendre pourquoi l'image astronomique devient tellement parlante. Et pourquoi ce rappel de cette planète au Soleil particulièrement, un rôle aussi, comment dirais-je, mathématique qu'il l'a. Voilà une chose. Dans ce deuxième dessin, c'est l'idée alors maintenant de son ellipse. Ici, c'est l'ellipse aussi, ici, c'est l'ellipse aussi, et alors la déclinaison est ajoutée. 27 degrés de déclinaison, 27 degrés de déclinaison, mais ici, ça soit sur un flanc, vous ne pouvez pas le voir. Ici, nous tâchons de faire le coup de bascule. D'où l'explication du dessin que je vous ai donné il y a déjà, je crois, un mois. Du dessin, voilà le soleil, et le dessin de la diagonale que fait Pluton dans sa descente d'un système solaire à l'autre. Parce que nous sommes maintenant dans les systèmes solaires humains. Et vous vous représentez que dans un thème humain, vous avez tout ça exactement comme c'est là. Et que la Lune déborde tout ça, puisque la Lune est la matrice de tout cet être. Et que cet être, c'est un être total, c'est un être sidéral, c'est un soleil cet être. Que cet être a donc tous ses attributs placés respectivement tels qu'ils sont marqués là astronomiquement, et que la Lune est la coupe qui tient tout ça. Elle est toujours la périphérie du thème. Elle embrasse tout ça, dont l'orbite de Pluton est à l'intérieur, n'oublions jamais ça, qu'elle est à l'intérieur pour nous, c'est rien, de l'orbite de la Lune. À l'intérieur de l'orbite de la Lune. Tout est à l'intérieur. Ai-je besoin de rappeler, pour être un peu technique une seconde, que si Pluton se trouve à 3-4 millions de kilomètres de la Terre, Vénus est à 50 millions, eh bien, la Lune n'est jamais plus que 300 000 kilomètres de la Terre. Et pourtant, dans une conjonction Vénus-Lune dans le ciel, qui est toujours si belle quand le ciel est beau, rappelez-vous que malgré que Vénus soit astronomiquement à 50 millions de kilomètres et la Lune seulement à 300 000, dans le thème, la Lune est plus loin que Vénus, parce que ce n'est pas ici la situation héliocentrique centrée sur le Soleil, la situation est centrée sur la Terre. Toutes les planètes sont dans le contenant de la Lune. Ça, c'est fondamental. Mais je n'ai pas à y venir maintenant, grand ciel, non. Alors, d'où le fait, d'où la déclinaison de 17 plus l'excentricité, nous traduisons ça par un simple diagramme qui nous montre que l'orbite de Neptune fait une horizontale parfaite, les trois fois les orbites de Neptune, nous sommes dans les plans humains. Par conséquent, l'enfant qui n'est pas encore né, qui n'est même pas encore conçu, aura une disposition pareille, ou pareille, naturellement, il est, qu'il soit conçu ou non, peu importe, il est. Que son champ d'expérience, ils ne le connaissent pas encore, il n'est pas pris la conscience particulière, le mode, l'état de conscience particulière qui est appelé l'incarnation, d'accord, lui, il est. Et s'il est, il a donc tout ce système sidéral. Il est l'ensemble de tout ça lui-même. Tous ses astres sont en lui, soleil, dans son âme, d'une part, et tous ses astres sont hors de son âme, c'est-à-dire autour de lui, comme fonction de liaison à son ambiance. Tout ça, nous l'avons fait l'année dernière, je n'y reviens pas. Mais je reviens, c'est parce que c'est capital, à ce dessin-là que j'avais fait assez grand la dernière fois, c'est que, parce que cette orbite et toutes les planètes sont sur ce plan, le Soleil au centre, que Pluton représente la diagonale à ce plan, c'est une diagonale, je l'exagère bien entendu, ici, n'est-ce pas, elle est une diagonale par rapport à ce plan, et par conséquent, entre la déclinaison, comme l'excentricité, veut que du plan de Neptune au plan de Pluton, il y a, comme on dirait, une marche, une descente, ou une montée. Alors vous avez là trois escaliers, et ou bien vous le descendez ou vous le montez. Dans ce petit dessin se trouve l'explication la plus simple de la notion capitale de la spirale, et de la spirale inversée, car tout est là. La clé de tout ce qui se passe en vertu d'une spire montante ou d'une spire descendante. Et nous allons voir maintenant le jeu de la spire montante et descendante directement sur la croix. Mais je répète que l'explication la plus secrète, la plus intellectuellement satisfaisante aussi, de toutes ces opérations mystérieuses que nous constatons dans le conscient humain et dans l'inconscient humain, et que nous mesurons qu'au moment où ça émerge au plan conscient, toutes les opérations qui se passent dans l'individu, dans sa psyché, dans son âme, ou ce qu'on appellera dans son psychisme, tout ça se passe en vertu d'un jeu perpétuel, d'une spirale montante ou d'une spirale descendante. Toute énergie est toujours, tout courant, procède par une spirale, jamais par une ligne droite. Nous l'avons déjà dit, nous ne revenons pas. Mais il faut quand même répéter ces choses parce que je sens le besoin de les répéter à moi-même. C'est donc assez certain qu'il faut les répéter pour tout le monde. C'est ce jeu perpétuel. Or, la spirale n'est pas comme on pense. Elle est descendante. Et c'est là le mystère du signe des poissons qui représente la double spirale, la descendante et la montante. Le signe des poissons qui résume d'ailleurs toutes les énergies cosmiques elles-mêmes. Dont les autres signes ne sont que des sortes de découpures. Alors, cette spirale montante ou descendante, la voilà expliquée ici, par ce jeu d'escalier ou ce jeu d'ascenseur qui monte et qui descend. Or, quand nous parlons de Pluton. Nous parlons toujours d'une fonction cosmique, soit sur le plan humain, soit sur le plan, sur tous les plans, de la vie de la Terre. Et sur le plan de l'invisible comme du visible, sur le plan de l'au-delà, appelez ça les morts, appelez ça les saints, appelez ça les hiérarchies supérieures. Tout ce qui est de la fonction dite de Pluton représente le jeu d'une spirale descendante. Donc le mouvement de descente se fait comme ça, dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre. Tandis que la spirale qui est représentée, dont l'énergie est représentée surtout par le principe de Neptune, la fonction neptunienne, à laquelle naturellement se soumettent toutes les fonctions des autres planètes, c'est la spirale montante droite, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Sens de l'aiguille d'une montre, spirale montante. Sens contraire à l'aiguille d'une montre, spirale descendante. Spirale très serrée, naturellement, parce que la seconde en est faite, la minute en est faite, est souvent très rapide. Il est important de constater que la spire, lorsque la coupe est inversée, quand le contenant s'inverse, ce que je vous ai défini en décembre, et de nouveau en janvier. Lorsque Neptune renverse sa coupe, son contenant, et nous donne donc l'enfant divin, et que toutes les énergies spirituelles nous viennent par le renversement des contenants s'inversant sur nous, c'est évident qu'à ce moment-là, toutes ces forces-là sont en train de descendre la spirale. Par conséquent, elles emploient là la fonction plutonienne. Puisque la fonction plutonienne sera définie momentanément, enfin partiellement, par la spire en inversion. Rien ne peut venir d'en haut à nous que par Pluton. Rien. Puisque c'est une descente. Et nous ne pouvons descendre plus bas que notre état actuel que par Pluton. Puisque certainement nous ne pouvons pas monter par lui. Toute montée à des plans supérieurs, c'est par le Neptune. Et toujours est-il que pour que nous puissions monter cette spire ensemble de l'aiguille d'une montre, il faut que la spire elle-même existe en principe déjà et qu'elle soit elle alors descendante à nous et que c'est donc une spire dite de la fonction plutonienne qui s'offre comme la passerelle, si vous voulez, ou comme le truchement, le pont par lequel nous pouvons passer au plan supérieur. La fonction du point alpha, Pluton, le point oméga, Neptune, le jeu du passage de l'un à l'autre, ce mouvement, ce battement universel dans notre cosmos, dans notre Terre et dans tout ce qui est vivant sur elle, et particulièrement là où la mesure sans erreur, dans l'être humain. C'est capital. Vous descendez dans le domaine proprement dit de votre Pluton dans votre Terre. C'est une descente, c'est obligatoire, c'est une descente de spire. Mais toujours est-il qu'une fois que vous êtes descendu dans une certaine dimension, dans une certaine profondeur, vous remontez. Ah, on n'est pas descendu pour ne pas remonter. Alors vous voyez, le mouvement de descente, c'est naturellement Pluton qui vous en donne, et non seulement le moyen, mais qui vous l'impose. C'est une descente, et c'est une descente nécessairement, passer un certain degré dans l'inconscient, puisque forcément, il est le prince même, par définition de sa position économique dans le système, le prince de l'inconscient. Non pas du superconscient, qui serait d'abord le Neptune, qui ne fait jamais du mal à l'intelligence, qui au contraire la nourrit et la charge, mais celui qui est l'ennemi de la lumière, toute chose relative, toute chose étant gardée, puisqu'il tend à détruire le mercure, en tout cas à le diminuer, puisque le mercure, c'est la prise de conscience, c'est l'œil même de l'âme. C'est l'âme éveillée, le mercure, c'est ça. J'ai tellement parlé de mercure maintenant en janvier que je pense que cette auditoire sait exactement de quoi je parle. Or, vous descendez dans la spire de votre Pluton par le sens contraire à l'aiguille du monde. Disons que vous êtes obligé. C'est une question de gravitation de votre équilibre psychique. Ce n'est pas autre chose qu'une gravitation de votre équilibre psychique qui joue comme ça, finalement. Mais une fois que vous êtes arrivé à un certain niveau plus bas que votre état habituel, votre état, disons, normatif, normal, d'équilibre, vous allez remonter fatalement. Car vous êtes toujours victorieux sur cette situation-là, puisque toute votre croix, maintenant, tous les bras de votre croix sont essentiellement au-delà et au-dessus de la place même, de l'état même qu'occupe, que représente le Pluton dans le thème. Donc vous remontez la spirale que vous êtes descendue, et vous la remontez forcément dans l'autre sens, car si vous alliez dans le même sens, vous descendriez plus bas. Vous remontez cette spirale, et vous ne la remontez jamais tout à fait la même que vous êtes descendu. Parce que chaque fois que vous êtes descendu, vous avez saisi, vous avez pris conscience de quelque chose dans la spirale en bas, et cette fois-ci, vous l'amenez avec vous à la lumière du centre de la croix. La prise de conscience générale, les 12 bras de croix, aux 12 prises de conscience, les 12 disciples du Christ que vous êtes, ces 12 disciples vous entourant, ils reçoivent ce que vous avez ramené du monde de votre Pluton à la lumière de la conscience et de l'incarnation. Et c'est comme ça que la vieille histoire, la vieille idée, que le diable est la nourriture des dieux, se justifie. C'est comme ça que de tout ce monde de la spirale inférieure, dont nous n'avons pas extrait toutes les vertus, toutes les substances, toutes au fond de nous-mêmes et généralement ignorées de nous-mêmes, grâce à Pluton et à sa présence, ces puissances en nous-mêmes, de nous-mêmes, ignorées de nous-mêmes, montent graduellement à la surface de la conscience, par la puissance de la croix marchant toujours dans le sens de l'aiguille du monde. La croix qui nous sauve, la croix qui représente la progression de l'âme humaine, le cheminement vers un devenir plus vaste et plus sain et plus heureux et plus parfait, enfin plus rond, c'est le mouvement de l'aiguille du monde, la spirale montante, la croix monte, par conséquent, dans une vie précédente, disons, ou dans le, disons même dans l'enfance, mais enfin dans une vie précédente, on peut dire et l'on doit dire que toute la croix, notre croix, est sur ce plan-là, disons. Maintenant, elle est sur ce plan-là. Et tout le jeu de Pluton, c'est de nous ramener un peu, par sa puissance d'inertie et par sa fonction de descente, en arrière pour voir si nous n'avons pas encore des choses que nous n'avons pas assimilées. Et nous sommes obligés d'y redescendre, mais la croix elle-même est en montée, tout le temps, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle monte par un mouvement de spirale sur tous les bras de croix, qui est ça. D'ailleurs, le bras de la croix, c'est une spirale. Le bras de la croix n'est pas une ligne. Le bras de la croix est vivante. Le bras de la croix est palpitant. C'est un frémissement perpétuel. Le bras de croix n'existe pas autrement que comme une spirale. La vie, tout est vivant dans un horoscope. Et les bras de la croix, c'est ce qu'il y a de plus vivant, car toute la vie se prend sur le bras de la croix, et l'énergie planétaire n'est pas autre chose que cette énergie qui se révèle à nous par le bras de la croix. Or, ce bras de la croix, c'est pas un corridor, c'est pas une conduite, un tuyau, c'est une spire en oscillation et en mouvement de montée ou de descente perpétuelle, nuit et jour, pour toute la vie. Avant la vie et après cette vie. Constamment. Voilà ce que c'est que la croix. Alors, ceci dit, je vais renverser ce tableau. C'est assez de vous donner ça aussi brièvement que possible, aussi simplement que possible, car l'image même de cette croix. Voilà le noyau. Voilà le centre de la croix. Je leur fais un grand cercle parce qu'en principe, en effet, nos thèmes ne se progressent, ne se développent qu'au centre de la croix, pas ailleurs. Parce que l'idée est que finalement, ce centre sera devenu si grand qu'il n'y aura plus besoin des maisons, c'est-à-dire plus besoin des expériences. Il n'y aura plus besoin de, descendre de la spirale ou de monter la spirale. Nous avons absorbé tout l'univers intérieur et tout l'univers extérieur. Nous avons absorbé et le bas et le haut en une seule unité qui sera notre âme elle-même. Alors le noyau du thème, le noyau de la conscience, le centre stratégique de la prise de conscience de l'être, c'est-à-dire donc du soleil, là où le soleil se prend conscience de lui-même, c'est par sa croix. Et c'est par conséquent par le centre de sa croix. Car la croix n'est pas autre chose que son centre. Son extension de bras ne traduit que l'immensité de sa juridiction, de sa puissance, de son potentiel, à transformer en actuel. Mais tout le noyau, si vous voulez, tout le noyau, c'est vraiment la prise de conscience particulière et totale et générale. Or, maintenant, fut-on face à la croix? Je ne m'en vais pas pour les besoins de la cause, étant donné les choses qui sont à dire et le temps qui est limité. Je ne vais pas vous mettre les 12 bras de croix. Vous allez comprendre le principe rien qu'en voyant la croix cardinale. Or, la croix cardinale, d'où vient-elle elle-même? Cette croix tout entière, d'où vient-elle? Eh bien, forcément, elle est elle-même montée sur un axe dont ceci est la représentation. La présente position de l'axe est là, mais la position précédente de l'axe est un peu plus basse. Donc, nous avons vu l'incarnation de la croix représente une montée. Il n'y a pas d'incarnation sans le centre de croix. Il n'y a pas d'incarnation sans le noyau. C'est une pensée fantastique de concevoir ça. Ce n'est pas concevable. Les bras de croix représentent des extensions de l'incarnation elle-même, mais des extensions par conséquent de miature, donc de la prise de conscience. Soit que ce champ de 10, de 11, de 12, de 5, de 6, de 7, de 8, c'est toujours une incarnation de prise de conscience. D'ailleurs, une incarnation, ce n'est pas autre chose qu'une prise de conscience par l'être, par l'âme. Et une prise de conscience, c'est tout de suite une forme. Car qu'est-ce que c'est que le conscient dans chacun de nous? Mais ce n'est pas autre chose que le point exact où l'être est capable de s'adapter au monde qui est extérieur à lui. Là, la ligne sur laquelle l'être est capable de s'adapter et de manœuvrer sa substance propre par rapport au monde extérieur à lui, c'est là que se trouve son plan conscient. Or, la croix représente exactement ça. Sans la croix, il n'y a pas de conscience de l'être. Et la croix montante représente un état de conscience de l'être plus développé que l'état précédent. Donc, tout l'être, toute notre âme monte à des états de conscience de plus en plus hauts et donc de plus en plus qualifiés par le centre de la croix qui continue à monter elle-même tout le temps et qui par conséquent fait monter toute la croix. Ceci dit, nous voyons que la croix représente l'état, disons, de victoire, disons, d'achèvement, pour employer des termes courants, représente des états de nouvelle naissance perpétuelle, alors, vers une lumière toujours plus grande, et dans des dimensions toujours plus grandes de l'âme, représente cette montée hors d'un plan qui, par définition, serait donc l'inconscient inférieur. Et non pas le superconscient. Nous avons les deux, nous avons l'inconscient inférieur et nous avons le superconscient, dont nous ne sommes pas conscients non plus. Mais le superconscient, on le sent, enrichit tout le temps notre conscience par l'apport de quelque chose qui vient d'en haut. Tandis que l'inconscient inférieur, il diminue notre conscience et il la diminue souvent par l'apport de quelque chose qui vient même de plus bas que nous. Donc, alourdissant encore plus la charge que porte notre croix. Car si nous recevons toujours pour monter, il faut recevoir d'en haut, et nous nous joignons à la spirale montante, à la spirale qui descend du ciel, de la croix des croix du ciel, d'autre part, par notre pluton, nous sommes obligés d'aller nous rejoindre à des plans inférieurs de conscience qui sont, pour ceux qui y sont dans ces plans, des superconsciences, car tout est relatif. Plutôt on représente dans notre thème le point où vient nous joindre la superconscience des êtres inférieurs dans l'évolution à notre état à nous. Et c'est précisément parce qu'ils cherchent la lumière aussi que, faisant vivre la fonction plutonienne en nous, ils représentent pour nous si souvent le supplice de la croix, la couronne d'épines, que c'est ça vraiment le principe du mystère du supplice chrétien. C'est lorsque nous sommes en train, à notre insu même, de sauver des âmes qui, par leur plan le plus haut qu'ils sont capables d'atteindre, par la spirale montante, ils arrivent à notre Pluton, qu'alors à ce moment-là, il devient très vivant, il réclame de nous notre descente à lui, et nous faisons à notre plan ce que le Sauveur Jésus-Christ lui-même, dans la tradition chrétienne, a fait vis-à-vis de ce monde. Il est venu sauver ce qui était, comme dit la littérature, perdu. Or, nécessairement, la croix est une négation de la spire descendante. Car la spire descendante, la voilà, elle part du centre, elle s'en va à la périphérie, elle part du centre, elle s'en va à la périphérie, sens contraire à l'aiguille d'une montre, elle part du centre et elle s'en va à la périphérie. Là. Voilà, c'est la spire dont c'est bien compris qu'elle est comme ça, c'est ce mouvement-là. Or, que voyons-nous? Que toute la croix de l'horoscope, dont la croix, notre croix, notre prise de conscience, notre incarnation de notre soleil, de notre être, nous voyons bien qu'elle fait le mouvement contraire. Qu'il n'y aurait pas d'univers ordonné et possible si la croix elle-même ne faisait pas tout le temps, par son mouvement rotation quotidienne, elle ne faisait pas le mouvement contraire. Puisque à 4 heures du matin, nous aurons le soleil ici, à 2 heures du matin ici, à 4 heures là, l'aurore est là, mais l'aurore est là parce que la croix suit le mouvement du soleil, parce que la croix est essentiellement solaire. C'est le masculine. C'est le principe de la raison. C'est donc le principe de l'intelligence de ce fameux soleil qui engendre toutes les idées, qui est le père de tous les enfants de la vie. C'est ce moment de montée. Alors la croix monte tout le temps, elle ne peut pas descendre. Elle ne peut pas descendre. L'axe de la croix ne descendra pas. Nous sommes vraiment tous sauvés. Il n'y a pas de... Ce n'est pas réversible. Ce mouvement est irréversible. C'est un mouvement de montée irréversible. Mais c'est monté. Alors la croix qui monte, alors ça c'est le mouvement de montée. Mais maintenant je vais vous faire la croix qui monte. Alors la croix qui monte, m'excuse de la crédité, la gauche prise du dessin, mais c'est l'idée qui compte, c'est ça seul que je peux mettre en avant. La croix qui monte, alors c'est le mouvement comme ça. C'est le mouvement comme ça. Car qui dit que vous êtes né, qui dit que vous avez tel et tel degré de tel signe sur l'horizon de naissance, veut dire que ce degré, la barre de la croix qui marque l'ascendant, qui est marquée là du centre de la croix sur la périphérie de la Lune, qui donc marque ce point dit de première maison, mais c'est une, disons-le nous bien, c'est une spirale à sens de l'aiguille du monde, et qui tend tout le temps à suivre le mouvement du soleil qui marche un de pair avec lui tout le temps, de sorte que si vous avez une planète, disons, en première maison, disons que vous avez Jupiter en première maison, et que vous l'avez là, disons, à 5 degrés de la pointe, dites-vous bien que de Jupiter au centre de la prise de la conscience, le mouvement est comme ça. Car entre la planète et le centre de la croix, il n'est pas question qu'il y ait autre chose comme manifestation énergique de la qualité et de la planète et du centre de la croix, c'est-à-dire de vous. Il n'y a pas autre chose que le mouvement de la spirale sens de l'aiguille du monde, la spirale montante qui suit le mouvement général de l'évolution. Est-ce que je me rends clair? Alors, le sens du mouvement d'évolution, voilà, c'est la croix elle-même qui nous le représente, c'est la croix elle-même qui nous le représente, c'est ce mouvement de montée, comme ça, c'est ce mouvement de montée, comme ça, hein, comme ça, comme ça. Alors vraiment, le tout, là, c'est la situation idéale d'une montée sur tous les plans, sans arrêt, à des vitesses relatives, mais enfin, c'est une montée sans arrêt, et sans accrochage. Effort, quelquefois, bien entendu, effort parce qu'il y aurait des quadratures, mais enfin, ce serait ça. Seulement, voilà, la situation se complique, parce que, à cause des plans que je vous ai donnés astronomiquement tout à l'heure, à cause de ceci, la spirale de Pluton, elle descend, et la spirale de Neptune, on peut aussi bien le faire là et aussi là, elle monte. Alors, il faut conclure que cette spirale montante, sens dans l'aiguille d'une montre, et sens du soleil, il nous est garanti par le rapport qu'il y a entre le soleil et la terre et la lune dans la balance, qui nous est garanti par cette solidarité du principe solaire au principe terre-lune, ça revient toujours à ça. Alors, cette solidarité est manifestée ici, et du moment que la croix va du même sens que ça, que tout ça vibre et spirale dans le même sens, et spirale tout dans ce sens, d'où toute la montée est révélée, tout le dynamisme, toute la mécanique de la chose nous est révélée là. Mais, tout est monté. Il faut qu'il monte plus haut. Et puis il est monté de plus bas. Or, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de spirale si ce n'est pas autre chose que le mouvement de remontée de la spirale inversée de Pluton? On remonte l'escalier. On remonte l'escalier. On ne le remonte pas, on le monte, pardon. On le monte. Mais on le monte avec des moments d'arrêt ou des reprises partielles du mouvement de la descente. Car il y a une partie de nous. Nous sommes comme un train, notre psyché est comme un train, une rame de wagon. Il y a quelque chose en queue qui peut-être précisément parce que c'est en queue, que nous sommes sur une courbe, représente un effort plus particulier pour la locomotive. Il y a le problème de se préoccuper tout autant de la queue du train que de sa tête. Or, par définition, la prise de conscience, dont rapport avec le monde extérieur, nous impose une telle attention sur le monde extérieur pour pouvoir toujours y faire face, lui adapter, le maîtriser, l'annexer, et forger une prise de conscience encore plus vaste et plus souple et plus subtile, que nous avons tendance à ignorer complètement la queue de notre train. Or, la queue de notre train, c'est le Pluton de notre veille. C'est l'arrière-garde. Alors l'arrière-garde, n'est-ce pas, elle est poursuivie par quelque chose qui a intérêt à se saisir de notre arrière-garde et qui est encore plus basse que cette arrière-garde dans le chemin de montée. Par conséquent, nous, général en chef, au centre du quartier général qui est le centre de la croix, force nous est de penser à sauver notre arrière-garde. Il faut que notre arrière-garde elle-même soit protégée, autrement si elle est enfoncée, bien, alors ce qui monte, la marée montante, va venir tâcher de monter maintenant jusqu'au centre de la croix. Alors ça, à tout prix, il faut l'éviter. Et c'est par conséquent ce jeu merveilleux de ce que toute cette puissance ici va momentanément s'amuser à descendre ici pour faire face à la pression que ça représente. Autrement dit, ce sont des spirales plutoniennes, de la fonction plutonienne, qui sont remontés vers la croix. La prise de conscience est un truchement vers lequel nous remontons la spirale descendante. Et comment on la remonte, nous faisons donc une spirale montante. Le ciel nous envoie une spirale descendante et nous la remontons. Mais comme nous sommes déjà remontés à un certain degré, il y a tout le chemin que nous avons parcouru, puis il y a tous les chemins qui ont été parcourus dans les corps les plus primitifs de l'évolution. Par conséquent, ce chemin est derrière nous et nous avons un jeu de battements en nous-mêmes, de descente et de montée entre les deux. Or, voyez-vous ici, le Pluton représenterait une croix qui serait impensable, parce qu'il serait impensable que tous les bras de la croix seraient manœuvrés par une spirale descendante. Ça, c'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Il ne serait pas d'une croix. Mais il se trouve que, si par exemple, Pluton se trouve conjoint à la pointe d'une maison, il se trouve conjoint à la pointe d'une maison, disons que la pointe de la maison 4, faisons le 4. Eh bien, voilà le 4, n'est-ce pas? S'il est conjoint à la pointe de 4, on le mettra comme ça dans un thème, dans l'intérieur, mais enfin, on le mettra là, conjoint à la pointe de 4. Mais vraiment conjoint à la pointe de 4. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est magistral. L'image vient tout de suite à l'esprit de la situation que ceci nous impose, ou ceci nous donne, si vous voulez. Le bras de croix, c'est l'épée ici, dans tous les cas d'ailleurs, c'est l'épée flamboyante de l'ange dans l'Apocalypse. La cité divine est protégée dans les 12 avenues, à la porte de ces 12 avenues, par un ange blanc, tenant à la main droite une épée flamboyante. Alors vous voyez ici, vous voyez les vieilles images, vous voyez cette ondulation lumineuse de l'épée, et vous voyez très bien le jeu de la spirale. Très bien. Vous voyez toute cette ondulation, cette fréquence électromagnétique, si vous voulez. Or, comme le bras de la croix est un mouvement de spirale en principe montante, que c'est la puissance même de la capacité de l'âme de développer le mouvement de la spirale, que ce bras de croix est lié au centre de la croix elle-même, que tout ça c'est un principe masculin, c'est un principe mâle, que c'est un principe de croissance et que c'est une épée, vous verrez bien que si Pluton se trouve exactement conjoint ceci, là, lui a tendance, c'est de faire descendre ce bras de croix. Or, quand on fait une descente du bras de croix au-dessous du niveau que nous avons déjà atteint, nous sommes en train vraiment de dégringoler. Il y a quelque chose en nous qui est en train de perdre les pédales pour ce qui touche à ce bras de croix. Toutes les pédales que nous avons sont grâce à ces mouvements montants qui sont la croix elle-même, qui sont les bras de croix eux-mêmes. Mais quand Pluton est sur la pointe, c'est comme un dragon, c'est l'image juste, dont la gueule est ouverte et qui voudrait en quelque sorte croquer ce bras de croix, donc le diminuer, le dévorer. Mais d'autre part, ce bras de croix, mais c'est la fameuse lance, la pointe de la lance de Saint-Michel, qui alors se met dans la gueule du dragon. Et alors, par la puissance de toute la croix qui porte Saint-Michel, il entre dans le dragon. Il entre dans le dragon et il le désentripaille littéralement, car étant descendu sa spire et ayant été obligé d'aller le chercher dans son repère, une fois qu'il y est, ce n'est pas Saint-Michel qui est détruit, c'est le dragon qui est vidé de sa puissance. Car là, maintenant Saint-Michel va remonter, car une fois qu'il est descendu, le voilà qui remonte, et là toute la croix lui permet de remonter, et alors Saint-Michel venant d'ici, va faire le mouvement comme ça, et ramène la matière qu'il a prise ici, il la ramène au centre de la croix, et elle en enrichit la situation. Elle est opposition Pluton. Vous avez la spire qui va d'ici, Pluton, alors, sèche. Ah oui, je vais en prendre l'opposition comme ça. Soleil en 1, Pluton en 7. Bah, alors la spire là, n'est-ce pas? La spire là, elle est descendante. Là, au contraire, elle est montante. Et Cela veut dire que le soleil est constamment, par le sens de la croix, qui est la prise de conscience, il est constamment conscient qu'il a un adversaire, qu'il a un opposant, qu'il est sur la bascule d'une véritable contradiction. Il le sent tout le temps. La polarisation, si l'on peut dire, à cet adversaire, parce que c'est l'adversaire du moment que sa pierre descend, alors que celle du soleil monte, enfin, c'est donc un adversaire, ça. Ça le serait en physique. L'un neutralise l'autre, n'est-ce pas? Il sent ça. Le soleil est quand même très vital. Il s'est affirmé définitivement qu'il ne veut rien avoir à faire avec l'alpha, son économie, son physique. Il veut être le plus loin possible de la matrice de la mer terrible, de cette lune-là. C'est vraiment une lune noire, celle-là. Alors celle-là, elle l'est bien. Il ne veut rien avoir à faire avec. C'est une des raisons pour laquelle on dira d'une lune qu'elle est noire, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas se voir dedans. C'est que la valeur de la lune, c'est la capacité de réfléchir à notre image, parfois de plus en plus consciente, mais elle nous refuse cette réflexion. Elle ne participe pas à cette prise de conscience de lui-même, mais parce qu'on peut. Alors, je reviens à ça. Alors, ce soleil va engendrer la pensée. Tout ce qu'il va faire, c'est des pensées, c'est ça qu'il doit faire. Il va remplir toutes les maisons de pensées dont l'angle est, s'il vous plaît, jamais plus ça. Et c'est une petite tartine, c'est une petite mélodie qui va répéter sous des formes diverses, si l'on peut lire constamment dans tout ce qu'il fait. Il en a une sainte trousse. Il n'en veut rien. Nous voyons ça avec la lune. Quand la lune est en position Pluton, oh là là, comme la lune représente en nous l'élément animal de notre nature, que le soleil représente en nous l'élément transcendant de notre nature, qu'on appelle, si vous voulez, ici simplement, disons, l'élément esprit de notre nature, sans définir ni l'animal ni l'esprit plus loin que ça, c'est la conjugaison des deux, la lune, la terre, la balance, c'est la conjugaison des deux. C'est ce qu'on appelle le corps et l'âme. Ça. L'âme ici, c'est la terre sur la balance. Et puis le corps, là, c'est la lune. Pour reprendre ça par analogie. Ça. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Quand c'est la lune, ça, la partie, la vitalité, ce qu'on appelle les esprits animaux dans un être, mais c'est la lune qui lui donne l'esprit animaux. C'est sa capacité à elle de tenir la coupe, non pas qu'elle-même le soit, mais enfin, c'est ce qu'elle conserve de toute l'énergie solaire et la façon dont elle sait le conserver et le renvoyer, le rendre, le rebondissement, le ressort de la base, n'est-ce pas? Tenez, par exemple, une image me vient pour la première fois. Prenez une balle de tennis, elle est en caoutchouc, elle frappe un sol, plus le sol est dur, plus elle rebondit. Bon, mais inversez l'idée maintenant. Ayez une balle dure, métal, dure, mais que le plancher, le sol, soit d'un caoutchouc rebondissant. Quand cette chose vous frappe le plancher renvoie la balle, ça c'est la lune. La lune correspond à un plancher qui serait fait d'un caoutchouc rebondissant constamment, le rebound perpétuel, la riposte perpétuelle. Alors vous savez la beauté de cette partie, dans le billard par exemple, dans le cadre du billard, c'est une merveilleuse riposte à la bille, à la boule. Vous avez l'idée, le cadre du billard, c'est une lune, il n'y a rien à faire, c'est bien ça. Et quel jeu de billard pouvez-vous jouer sans le cadre, et sans un bon cadre bien rebondissant. Alors, la lune en opposition à Pluton, ça veut dire que, ouais, la mer terrible, Pluton, ah bien, alors, c'est une forme, un degré d'animalité qui n'est plus humaine. Et la moins, en tout cas, ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas humaine, puisque c'est quand même dans l'économie de l'homme. Mais c'est la chose la moins humaine dans l'homme, n'est-ce pas? C'est la queue du saurien dans l'évolution de l'homme. C'est ce qui nous reste, si vous voulez, du plus primitif du monde animal. C'est le monde animal dans ce qu'il a de moins raffiné lui-même qui reste en nous, ce qui tombe. Et alors, l'animal sain que représente ici la lune n'en veut rien. Mais si elle n'en veut rien, c'est qu'elle sait par expérience antérieure ce que c'est, et qu'elle a décidé qu'elle n'y goûterait plus jamais. Oui, et on voit ça. Alors vous qui faites de la pratique astrologique, allez-y les yeux fermés. En tout cas, vérifiez naturellement, ne croyez pas un mot ce que je dis, mais faites-moi l'honneur et faites-vous à vous-même l'honneur de bûcher ce que je dis. Bûchez-le. Vous verrez que vous serez largement récompensé à tous les points de vue, spirituellement, intellectuellement, pratiquement. Et vous aiderez pas de chance. La Lune, opposition à Pluton, à l'âge de 14 ans, puis à l'âge de 14 à 42 ans, cette Lune va venir par progression secondaire à la conjonction. Ah, à ce moment-là, jamais le Soleil ne peut venir à la conjonction de Pluton, il lui faudrait 180 ans. Mais la Lune, ça lui prend 14 ans. Puis de nouveau après 28 ans. Et surtout alors, n'est-ce pas, à 42 ans, c'est un moment critique dans l'évolution de l'animal humain. Et la Lune, et par conséquent, c'est la Lune, c'est surtout dans le monde féminin, dans l'animal féminin humain. Alors, à 42 ans, il y a quelques bousculades formidables dans une femme qui tout à coup déraille, pour un moment déraille, et que tout d'un coup elle est obsédée de questions sexuelles quand elle l'était apparemment jamais avant, jamais tourmentée de ça. C'est que vous êtes tranquille, c'est la Lune qui est arrivée à la conjonction de tout ça. Ça rate pas, parce que visiblement, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, je n'ai pas le droit de dire ça. Mais ça ne rate pas en principe que dans la relation soleil plus contre opposition Pluton, l'hypersexualité, la sexualité donc par conséquent désaxée, désordonnée, non pas créatrice, mais guidante. Non pas servante de la vie, mais dictateur de la vie. La vie lui étant l'esclave de cette hypersexualité, il est certain que quand c'est le soleil en opposition, nous n'assistons pas à ce phénomène. Mais quand la lune est en opposition, c'est extraordinaire comme on va tout à coup se découvrir une hypersexualité secrète, qui était là. Lancinant dans couveuse dans l'air, disons ici particulièrement dans la femme, c'est surtout chez la femme que j'ai dit. C'est logique d'ailleurs, c'est là où elle se mesure le mieux. Et bien quand la lune vient là, tout à coup, il y a une fameuse secousse. Des cauchemars qu'aura la femme. Ça ne l'ira peut-être pas plus loin, quelquefois. Ça dépend du thème, naturellement, ça dépend de tous les thèmes. Et les cauchemars qu'aura une femme à ce moment-là, c'est prodigieusement intéressant au point de vue documentaire. Prodigieusement intéressant. Parce que là, à ce moment-là, le Pluton réclame, il dit alors moi. Et alors, tout à coup, l'émotivité, elle est tellement enfoulée, elle est tout à coup axée entièrement sur cette ancienne sexualité de cet être, que c'est un rappel au passé. Et que tout à coup, elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait toute la vie? J'ai raté le coche. C'est ça que je voulais, au fond. Et pour un instant, tout tourne boule dans sa pauvre tête, car c'est la Lune. Et naturellement, elle a basculé tous les mercures imaginables, n'est-ce pas? Elle a oublié tous les enfants du Soleil pour un moment. La mémoire est par terre. C'est une césure dans la chaîne de la mémoire. Pour avec la Lune, c'est ça ce qui est grave avec la Lune. Ce qui est grave avec la Lune, qui n'est pas grave avec un Jupiter, un Saturne, un Uranus, un Mars, une Vénus, non. Mais avec la Lune, c'est qu'elle peut faire patatras si rapidement. Alors les idées tombent. Et quand les idées corrompent, c'est la mémoire qui n'est plus. Car quand vous vous dites, ah, mais j'ai une magnifique mémoire, soyez tranquille, c'est que la lune, elle est bonne. Elle part toujours dans ses bras comme une nounou normande. Et elle porte les enfants du patron. Elle ne laisse pas tomber. Alors, vous voyez l'affolement, l'alarme tout à coup d'une nounou devant un accident. Au lieu de simplement se sauver avec son fardeau précieux, non, elle le laisse tomber automatiquement comme ça. C'est exact. Est-ce que vous ne voyez donc pas ça, vous qui faites des thèmes? Est-ce que vous ne voyez pas que quand la lune est affolée, c'est exactement ce qui arrive. Quand une émotion est affolée, vous perdez la tête. Alors, perdre la tête, c'est précisément le fait que Mercure, elle la lâche. Car c'est elle qui le porte. Le soleil l'a donné. C'est à elle de le porter. C'est à elle de se tenir. C'est à elle à permettre à ce que le soleil le fasse monter maintenant plus haut. Il faut que le soleil... Et il est dedans, le soleil. Il a confié ça à sa compagne, la lune. Voilà le mystère de la lune dans notre monde. Et elle est partout, la lune. Partout. Sans elle, rien ne se passe. Parce qu'elle est toujours la couleur. Et qu'il faut bien que quelque chose aille dans une couleur. Est-ce que pour un seul instant, votre sang pourrait circuler s'il n'y avait pas la coupe de vos artères et de vos veines? Est-ce que pour un seul instant, l'air vous servirait à quelque chose sans la coupe de vos poumons, le contenant de vos poumons, la cage thoracique? Est-ce que la nourriture servirait à quoi que ce soit si l'estomac n'était pas une lune? Un contenant qui était à la disposition de la nourriture, non pas pour la dévorer et s'en faire elle-même un monde qui ferait grossir les parois de l'estomac aux dépens de vous, mais pour permettre la translation de la nourriture aux éléments constructifs de votre économie. Voilà la lune. Votre corps existe en fonction par le moyen de deux choses, que vous retrouverez toujours, en tout cas, deux choses, les contenus et les contenants. Vous avez des coupes dans votre corps, elles sont toutes sous le régime de la lune. La vessie est une coupe lunaire. Le péritoine, si je crois que c'est le mot juste, enfin, ce qui porte l'intestin, c'est une coupe lunaire. La boîte crânienne, c'est une coupe lunaire. L'espace de jeu, par lequel le contenu sang circule dans vos artères, mais le sang ne remplit pas l'artère à le faire craquer. Il y a un jeu, il y a le jeu sur le rail. Sans le contenant, il n'y a pas de sang. Alors, sans le contenant, il n'y a pas de contenu. Et sans contenu, il n'y a pas de contenant. Vous voyez comme ça se tient dans toutes les molécules de notre organisme. Voilà pourquoi l'on dit le signe du cancer, la lune, elle régit l'estomac. Voilà pourquoi elle régit l'estomac. Parce que c'est bien, apparemment, de tous les contenants corporels, celui qui est le plus directement, le plus immédiatement sous l'emprise de ce principe du contenant lunaire. J'en suis maintenant donc visiblement arrivé à la lune. Alors, maintenant je viens à ce dessin-là. J'ai encore un quart d'heure. Vous n'êtes pas trop fatigué? J'en viens à ce dessin-là, qui est l'inverse de l'autre. Alors, tout le monde connaît le dessin de jeudi dernier. C'était le soleil au centre, le cadre, la coupe, le cadre, le contenant la lune, le contenu du soleil, et vous saviez qu'il était conjoint à Pluton et que les flèches étaient dans l'autre sens qui représentait la création de son rayonnement, c'est-à-dire toute la couronne de l'âme, c'est-à-dire toutes les idées, l'intelligence, la compréhension, etc., etc. C'était le Mercure. Techniquement, c'est toujours le Mercure qui sortait ici, qui sortait dans l'espace vide, que lui donne le cadre de la lune. Car jamais, jamais ou grand jamais, notre âme peut-elle produire des idées, peut-elle devenir quelque chose en dehors du cadre de la lune. C'est impossible. Si l'on croit qu'il faut un peu, on n'est encore rien compris à la situation réelle. Toujours le cas de la Lune qui est ambivalent, il protège contre l'extérieur qui ne regarde pas l'opération, et il permet en même temps l'espace vital et le stimulant pour l'opération. Alors, ici, c'est le contraire. Ici, c'est la Lune conjointe Pluton. Alors, vous avez bien compris que nous sommes maintenant dans le monde des contenants. Ceci sera valable avec Saturne conjoint Pluton. Ceci sera valable avec Neptune conjoint Pluton, les trois contenants. Alors maintenant, c'est la Lune. Elle est d'une importance suprême, elle est constante, elle est la plus constante. Bon. Alors, si Pluton conjoint la Lune est obligée d'inverser sa coupe avec une fréquence considérable. Par conséquent, ça veut dire que ce qu'elle refuse de porter le principe masculin. Elle refuse de porter le principe masculin. Donc, elle l'excrète, elle l'élimine. Alors, disons simplement que le soleil, il est bien, naturellement tout son, je suppose que le soleil est parfaitement bien. Comme dans l'autre cas, on supposait que la lune était parfaitement bien. Mais maintenant, c'est le soleil qui est bien. Oh, il fait des enfants. Oh, il en fait. Oui, mais la lune ne fait pas des berceaux. Et puis, elle en a un. Oh oui, oui, on a un berceau. D'accord, bien sûr, c'est la lune. Bon, la pauvre lune, elle a même fait deux ou trois berceaux. Mais à bout de bout de champ, elle les bascule. Elle les tourne. Et le bébé fait patatras, et alors il n'est plus dans la chambre. Il a disparu dans le plancher. C'est-à-dire l'idée, ici, la chose manifeste, a disparu de nouveau dans l'inconscient. Alors, en étant dans l'inconscient, qu'est-ce qui arrive? Le soleil dit, tiens, je ne vois plus mon enfant. Bon, c'est comme un père qui dit, tiens, je ne vois plus mon tableau. On l'a pris. Oh, ce n'est pas bien grave, je vais en faire un autre. Il est tellement riche, ce peintre, qu'il fait un autre tableau. Mais au bout d'un moment, il aimerait que ces tableaux restent là, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui les lui chiffre tout le temps. C'est que la Lune, gardienne des tableaux, portant des tableaux, tout à coup, qui tue, elle-même fait une dégringolade vertigineuse, elle a ce qu'on appellerait une hypersensibilité morbide, c'est une hypertension de l'émotivité, c'est un orage émotif effroyable, elle lâche l'enfant, le tableau disparaît, le soleil se dit, bon, il faut que je recommence. Mais vous pouvez être tranquille, avec la conjonction de la Lune, il faudra que le soleil recommence tout le temps. Avec la conjonction de la Lune, l'enfant Mercure, avec Pluton conjoint la Lune, avec ce Pluton qui entraîne la Lune dans l'Hadès, l'idée vraiment de capter la fille de Cérès et de l'emmener aux enfers. Et puis quand même, négocier avec Jupiter un temps où elle peut fonctionner normalement. Car rien n'est total dans ce domaine, ça va de soi. Mais il faut bien le dire, alors comptez dessus, les amis. Vous êtes tranquille. Si Mercure dans ce thème n'est pas puissamment soutenu par Saturne, en une conjonction, ou par, si l'on veut, un sextile, deuxième très bon aspect pour le soutenir. Si ce Mercure n'est pas merveilleusement soutenu, disons encore alors par Uranus, une puissance masculine très forte, beaucoup plus forte que Neptune. Alors, vous remarquerez que cette personne incapable pour elle d'avoir de la mémoire. Lui enseigner quelque chose, mais oui, elle comprendra très bien, mais demain elle l'aura oublié. Il faut que le contenant lunaire soit bon pour la mémoire, soit bon pour qu'on ait une bonne mémoire. Une bonne lune, ça veut dire une bonne mémoire. Parce que ça veut dire que l'animal soutient le mental et qu'il n'est pas en contradiction avec lui. Que dans la marche évolutive de ce qu'on appelle l'âme humaine, dans la partie dite de son mental, dans la forme, dans cette création miraculeuse qui est le mental de l'âme, l'animal humain qui est le support et duquel tout ça a dû traverser n'est pas contre, mais au contraire est pour. Il est comme l'âme de l'écriture, l'animal domestique qui porte volontiers et fidèlement la Vierge, l'enfant sur son dos. Voilà. Si la Lune est comme ça, alors tout va bien. Et la Lune conjointe Pluton, je vous garantis que la Sainte Vierge n'a jamais été assise sur un âne qui avait la lune conjonctive. Ça, non. Ça, c'est assez simple. Alors, ici, n'est-ce pas, voilà la flèche qui, le cadre se rétrécit au lieu de s'agrandir. Et vous savez que dans certains cas biologiques de femmes qui ont la conjonction, j'en connais une à Paris, qui a la conjonction de la Lune dans les Gémeaux, à son piston presque exact, elle a pour corps et potage en opposition à 5 planètes dans le Sagittaire. Allez, c'est pour avoir corps et potage, ça c'est complet. Ça double encore la tête. Eh bien, elle n'a pas pu avoir d'enfant pour un long temps. Il a fallu qu'un obstétricien modifiât ses organes, son utérus, etc. Elle avait ça à tout bouler à l'intérieur. Littéralement, c'était une inversion, voilà. C'était presque littéralement, physiquement, physiologiquement, la traduction de l'aspect. Comment? Oui, mais elle avait ça plus encore autre chose. Là, je ne me rappelle pas. Mais c'est pour dire, et la naissance du premier enfant, un garçon, ça a été extrêmement compliqué. Voilà. Évidemment, elle n'a failli ne pas le porter, c'est une lune qui ne portera pas l'enfant. On pouvait dire que c'est une matrice qui est fissurée, ou qui est très vite fissurée, qui n'a pas la résilience, qui n'a pas la densité, l'élasticité voulue pour porter l'enfant. Alors, il y a un lâchage, voilà. Ça se fait sur le plan physique, ça se fait sur le plan psychique. Et le plus extraordinaire de tout, et il me semble qu'au point de vue évolutif, c'est très significatif, il me semble que tout se passe comme si, dans nos races à nous, dans nos pays à nous, je ne sais pas ce que c'est dans les primitifs, je ne sais pas ce que c'est dans les Asies, mais dans nos races blanches, dans nos climats tempérés, le phénomène de cette conjonction Pluton-Lune est très frappant, immanquablement frappant sur le plan de l'énergie psychique, c'est-à-dire en psychologie, en comportement. Beaucoup plus rarement sur le plan corporel, sur le plan psychique. Il semble que là, et c'est là l'un des beaux mystères du travail de croissance, d'incubation de la croissance de l'espèce humaine, de son développement, de son amélioration, de son perfectionnement, et qu'un aspect ne semble pas jouer à la fois et de la même dimension et de la même intensité sur le plan physiologique, sur le plan du corps et sur le plan psychique. Quelquefois, c'est beaucoup plus physiologique que psychique. Mais la plupart du temps, c'est psychique et presque pas physiologique. Le fameux parallèle psychophysique, je ne veux rien dire de plus que je constate ça. C'est très intéressant. Notez que j'ai une certaine explication théorique de ça qui me satisfait, dans laquelle je n'ai pas le loisir d'aller du tout maintenant. Je rappelle simplement qu'un thème n'est pas une croix, seulement dans un sens, que c'est une sphère et que nous avons des millions de bras de croix qui vont dans tous les sens pour permettre la constitution d'une sphère. Par conséquent, vous avez la zone des bras de croix qui concerne la physiologie du corps, c'est-à-dire la partie corporelle de nous-mêmes, et vous avez les zones de bras de croix qui constituent la partie psychique de nous-mêmes. Alors, si les bras de croix qui gèrent la zone physiologique, qui sont donc tous des mercures, pas le système nerveux volontaire, le grand système nerveux qui est à l'origine même de notre vie corporelle, et bien, si cela... Ces bras-là, dans le thème, ne sont pas aussi dérangés que les bras qui touchent aux zones psychiques. Alors, le corps se maintiendra assez bien quand le psychisme est en train de passer par toute espèce de crise. Quelquefois, ce sera l'inverse et quelquefois, ce sera les deux simultanément. Ça dépend du nombre de bras de croix engagés dans ce rayonnement du centre de la croix. Qui fait certainement partie, et non pas seulement 12 maisons, mais 144 maisons pour le moins, et celle-là encore multipliée, probablement, si l'on veut, par 144 fois 144. Eh oui, c'est ça. Derrière un thème, il y a tout ça. Quand vous pensez que du centre de vous-même s'étend une croix qui établit la réalité et la vie et la forme et le style d'un de vos organes physiques, pensez donc. Pour tout le reste, c'est la même chose. Vos reins. Quand on dit les reins sont sous la maîtrise de Vénus, font partie de la balance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va paraître cette balance que vous voyez comme ça sur une feuille plate. C'est multidimensionnel, ça. La tendance de la vie, de l'être, c'est de devenir sphérique. C'est la sphère, c'est de ressembler à un as qui est sphérique. C'est de devenir sphérique, c'est d'être autant dans tous les sens que dans un seul. Nous ne sommes pas nécessairement plats comme des punaises, des ronds et plats. Mais ça, nous avons des dimensions. L'idée, c'est de prendre ça dans tous les sens. Les quatre points cardinaux devront être satisfaits également. Voilà tous les mystères d'une astrologie qui est encore toute à fouiller. Toujours est-il que vous commencez par le commencement, et j'espère que le commencement n'est pas mauvais, qu'il ne me fiche pas dedans, que je ne vous mets pas dedans. Alors ici, vous voyez, la Lune indique par la flèche qu'elle se refuse à porter l'enfant du Soleil et qu'elle le renvoie où? Ben, elle ne le renvoie pas au Soleil, puisqu'elle a disparu la Lune là-dedans. Donc elle ignore le Soleil. Par contre, elle le renvoie dans l'inconscient. Alors c'est un symbole, je crois, parfait. Je vais montrer ça. Trois psychologues très, très spécialisés dans ces choses, qui ne sont pas du tout astrologues à Lausanne, ils m'ont dit ça c'est une image épatante. Comme l'autre, c'est une image épatante aussi. Le retour à l'inconscient. La disparition du soleil, le père et les enfants dans l'inconscient. Ça ne veut pas aller ailleurs dans l'inconscient, mais c'est la redisparition de l'inconscient et la recréation de la chose qui doit se refaire faire une place. Voilà. Vous remarquerez. Dans une femme ou un homme de 50 ans, si le Mercure n'a pas été soutenu par une planète puissante, s'il n'a pas été tenu par un magistère comme Saturne, qui empêche ce Mercure de disparaître quand la Lune le lâche, n'est-ce pas? Ah ben, le magistère la tient. C'est comme si le parrain de l'enfant disait, je sais que la garde, elle est folle parfois. Alors moi, je reste près d'elle et quand elle va lâcher l'enfant, je le saisis, n'est-ce pas? Ça, c'est Saturne conjoint Mercure. Sans ça, vous remarquerez qu'il y a un puérilisme de l'intelligence de cette personne. Elle reste enfantine. Voyez ça de près. Quiconque a une lune conjointe Pluton d'une façon forte, qui n'a pas un Mercure très soutenu par Uranus, qui trompe alors, n'est-ce pas, ou par Jupiter, mais surtout par Uranus, qui est tout à fait de sa nature, alors dites-vous, ne vous étonnez pas si tout à coup, la personne traduit un infantilisme, un défaut certain de maturité, et un stage enfantin qui semble rester toute la vie. Est-ce que ce n'est pas logique, David? Car enfin, c'est une incarnation à retardement. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Alors, dans ces conditions, Pluton conjoint la Lune. Mettons maintenant le signe du cancer à l'ascendant. Signe du cancer à l'ascendant. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes à propos de cette histoire de la Lune? Ce que l'on pourrait dire sur ce qu'on appelle la conscience au sens psychologique du terme, le mystère de la conscience qui n'est pas l'être. Il n'est pas l'être. C'est distinction des deux. La conscience qui est représentée précisément par cette équation à la Lune. Et puis, cette Lune, ce contenant. Et ce contenant, même quand il est bon, il est peut-être mince, il est peut-être jeune. Comment jeune? Va-t-il se densifier suffisamment pour son contenu? Va-t-il prendre cette maturité? Le problème n'est pas seulement que les contenus soient bons, le problème est aussi que les contenants soient bons, et que bon veut dire ici aussi vital dans leur genre que le contenu est vital dans le sien. Il y a tout un mystère des contenants là, encore, et je n'ai pas encore éclairci, je vous envoie à y aller. Le mystère des contenants qui eux-mêmes ont leur croissance. La lune croit avec la lune. Il n'y a pas que le soleil qui croit. La lune croit. La mer croit. La compagne croit. Le côté dit animal lui-même est transformé. Il reste essentiellement la fonction animale, mais en mutation elle-même. Ça est vrai de Saturne. Ça est vrai de Saturne. Enfin, sur les continents. Alors, je soupçonne, entre autres choses, que Pluton conjoint la Lune, non seulement inverse sa coupe, mais forcément empêche ce contenant de croître, de grandir. Et qu'il reste malingre et exsangue, qu'il reste aussi mince quelquefois qu'un papier de cigarette, que c'est un peu un carton, quelque chose d'une solide robe de caoutchouc qui résiste au choc et qui prend les coups et qui renvoie la roue de l'auto. Voilà, tout ça, il y a quelque chose de grêle dans ce caoutchouc-là. Voilà la raison de la conjonction de la Lune. Alors maintenant, prenons ça dans le cancer. C'est le cancer qui mène la Lune. Le cancer sur la quatrième maison, c'est sa maison naturelle. Où que soit la Lune, qu'elle soit dans le lion conjoint Pluton, qu'elle soit dans les gémeaux conjoint Pluton, ou qu'elle soit conjoint Lyon dans les gémeaux, le lion ou le cancer, puisque c'est les seuls signes de Pluton dans nos générations. Qu'elle est conjointe dans le gémeaux, conjoint le cancer, conjoint dans le lion. Qu'est-ce que ça fait pour la quatrième maison si c'est cancer? Très bien, vous pouvez être tranquille. Nous allons regarder dans le thème de la personne qui a ça, ou un enfant qui a cancer pour 4 et la lune conjoint Pluton. Qu'est-ce que je conclue? Indépendamment de tous les aspects, tout pose égal d'ailleurs. Quel drôle de moment il a eu. Quel drôle de moment il a. Quel drôle de mère. Voilà une mère qui n'est pas du tout intéressée à son enfant. Ou si peut-être elle est très intéressée, mais tout à fait incapable de jouer le rôle d'une mère, même d'une mère presque physiologique, même dans le bas âge. Et puis, parfois aussi, parce que la conjonction à Pluton représente l'hyper-intensité du côté animal de la Lune, qui alors adhère à la mère terrible, elle-même, et s'identifie à la mère terrible, c'est la grande prostituée de l'Apocalypse. Elle se moquait perdument de la fonction créatrice. Elle se sert de la sexualité pour elle-même, jalousement. Elle se moque éperdument avec qui ça va être. C'est la Lune, c'est tout à fait indifférent, comme l'animal le plus élémentaire, tout à fait indifférent. Rien n'a un sens particulier. Tant que c'est agréable, c'est tout ce qu'il faut. C'est la prostituée. Elle ne veut pas d'enfants. Que de femmes qui ont la conjonction de Pluton ne veulent pas d'enfants. Leur Lune. Oh, c'est formidable, ça. Formidable. Ça les embête d'en avoir des enfants. Mais il faut que je les élève. D'abord, il faut que je les porte. Ah zut alors. Ça va déranger tout mon style, toute ma forme et toutes mes habitudes. J'aurai un corps déformé. Non. J'en veux rien. Moi, d'abord. Ma forme, d'abord. Mon joli corps, d'abord, avant tout. Une partie de sa raison d'être de ce corps, c'est l'enfant. Oh, ça, je m'en moque éperdument. Je laisse ça aux imbéciles, aux autres femmes assez bêtes pour ça. J'ai entendu ce langage. J'ai entendu, c'est courant. Et puis, après, j'ai un enfant. Oh, ce que c'est carrément. Eh bien, on va le passer à des gouvernantes. On va le passer à des grands-mères, à des cousines, à n'importe qui, pourvu qu'on ne déroge pas. C'est rendez-vous pour les jeux de cartes. C'est plaisir, c'est voyage. Tout, plutôt que déranger sa vie. L'enfant, c'est un encombrement. Lune conjoint Pluton. Et je vous certifie que sous une forme ou une autre, c'est quelque chose de ça que dira la Lune dans le thème d'un enfant dont la Lune est conjoint Pluton. Si cancer, c'est quatrième maison, pas nécessairement comme ça autant si c'est dans une autre maison. Mais si le cancer est 4, c'est cerné, c'est centré, ça se rapproche étonnamment de ça. Alors ça veut dire un foyer désastreux pour cet enfant. Un foyer qui n'en est pas un, il faut qu'il soit élevé ailleurs. S'il est élevé là, vous savez, il n'est pas élevé. Et il y a bien des chances qu'il meure enfant ou qu'il ne grande jamais. Voilà, à 20 ans, il en a 10. Si le cancer est sur la première, sur la dixième maison, si le cancer est sur la dixième maison, vous comprenez, avec cette situation-là, la santé. Alors, avoir le cancer pour la dix, ça veut dire que l'élément féminin de notre nature cherche à trouver son apothéose dans cette vie, trouver à s'étendre et à se manifester au soleil, à entrer dans l'incarnation au maximum. Car la dixième maison, c'est bien entrer en incarnation dans sa gloire. Alors, c'est le féminin qui a cancer pour le milieu du ciel. C'est inévitable, la gravitation, c'est de faire mode de mobiliser tout l'élément féminin de sa nature et de le présenter au ciel. Voilà ce que je tiens dans cette vie à te donner de moi avant tout. Et d'une autre façon de dire, c'est ça surtout que je veux que le monde voit de moi. Je peux ne pas être du tout comme ça, mais c'est ce que je veux que le monde voit de moi. Et puis aussi, c'est une façon par moi, pour moi, de pomper, de brouter ce que le monde pourrait me donner. Et il va donner surtout à la femme. Le reste, moi, ça ne regarde pas le monde et je ne lui demande pas qu'il me donne quelque chose. Mais la femme, moi, oui. Mais non, féminin, ma nature. Ça, c'est vrai pour l'homme, ça, c'est vrai pour la femme. C'est vrai pour tout le monde. Naturellement, c'est plus marquant. Alors, vous comprenez, quand le cancer est maître de 10, mais il va falloir lui décompter un peu ça, c'est subtil. Je crois que c'est plus subtil qu'en 4. Mais je dirais, entre autres choses, que certainement, cette personne-là a une hyperesthésie de l'émotivité, qu'elle va se manifester dans son contact avec la société. Certainement, les contacts professionnellement, je crois qu'elle en aura un millier de professions, c'est une façon de dire qu'elle n'en aura aucune. Elle sera un peu tout à tous. Elle sera une poudre de quelque chose. Ses jours sont effrités sans beaucoup de sens. Parce que la lune est folle. Alors, avec la conjonction, elle est tout le temps à trôner dans une dixième maison, puis elle est saoule, il faut bien le dire, elle est saoule. Dans ce cas-là, elle a une forme de saoulerie. Alors, elle attire les gens saouls. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Alors, on trouvera autour de cette personne non pas une société dans le sens de 11e maison, mais on se voit que ses contacts professionnels sont vraiment en bas, sans aucune chance. Il n'y a aucune chance pour elle de s'accrocher à quelque chose. Comment voulez-vous qu'elle s'accroche à quelque chose? Comment voulez-vous? Impossible. Ils n'ont pas de carrière. Ne songez pas à une carrière de quelqu'un, mon Dieu, qui aurait le cancer pour le milieu du ciel, et la lune conjointe, il tombe. Oh non, c'est vraiment trop dur. Cherchez-lui du travail en 6 ou en 12, mettez-la dans les disciplines, des œuvres organisées et surtout charitables, quand même les fonctions vénusiennes et quand même certaines fonctions de la lune peuvent jouer. Mais ne touchez pas la deuxième maison, vous ne recommandez rien. Si c'est la maison 7, c'est la maison 1. Alors, on sait bien que le cancer pour 1, c'est le ego hypersensible. Oh mon Dieu, le moindre courant d'air au bout de son nez lui donne un éternuement. C'est la lune en 1, ça. C'est mieux que la lune en 1, c'est aussi le cancer sur la pointe d'un. Alors vous comprenez, la sensibilité est tellement grande avec le cancer sur la pointe d'un que souvent ça frôle la timidité. Ah! On se défend avec le cancer, on imagine toutes les maladies imaginables. Moi je sais ça, parce que je suis le cancer assez fortement. On se croit toujours plus malade qu'on est, on croit les situations, on les dramatise, tout, cancer en 1. Alors voilà, on a le cancer en 1, on a le capricorne en 7, donc le mari si c'est une femme, ou la femme si c'est le mari, ce sera le Saturne, je sais. Alors, si c'est une femme qui a le cancer en 1, on entend le mari dire « Allons, ma petite, pas tant de fièvre, pas tant d'agitation, pas tant de... Tiens-toi bien !» Et le mari joue un rôle qui stabilise tout le temps. Ou inversement, ce sera la femme qui stabilisera le pauvre mari à un cancer pendant. Ça ne ratera jamais, c'est comme ça que ça se passe. Alors, renforcez-moi ça avec un petit ton conjoint à la lune, et l'ego de cette pauvre personne Et si c'est un homme, c'est vraiment encore pire que c'est une femme. Ah, ben, l'ego fait un patatras épouvantable. Et il a le vertige, il est conduit par le nez, et on en fait ce qu'on en veut, il hésite partout, il a vraiment un ballon sur les yeux. Il ne voit rien. Devant la lune, il est comme ça devant soi. Comment voulez-vous? Si vous avez un miroir devant vous qui va tout le temps comme ça, qu'est-ce que vous voulez regarder? Que voulez-vous regarder? Vous vous usez les yeux, c'est tout. Et vous n'avancez pas. Voilà, j'ai touché. Alors maintenant, si la lune est en 7, cancer 7, alors c'est la même histoire. Vous êtes vraiment miné par les autres. Vous attirez à vous. C'est un excès de sympathie. Cette conjonction, c'est une sympathie, c'est une puissance de sensation, de sensibilité, et quelquefois de sympathie, mais alors d'une sympathie alors morbide. Il y a des gens qui sont incapables d'avoir de la sympathie sans devenir littéralement morbides dans leur sympathie. Ça devient tellement une sympathie frénétique que c'est une triple, comment dirais-je, une triple couche, une triple couche de graisse, si vous voulez, ou de lard sur un sandwich. On prend des images, vous entendez, il faut tâcher de rendre les choses si possible un peu concrètes. C'est tellement épais, c'est tellement gras que personne ne peut le manger aussi, c'est quand même pas normal. Ça. Alors, cette personne regarde les autres, tant qu'elle se regarde elle-même, c'est le cancer en un. C'est... Alors elle dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis, parce que quand on regarde la première maison, on ne la regarde pas. De la pointe au centre, on est au centre, l'œil est au centre, l'optique est au centre, et il regarde la pointe. Alors l'œil au centre regarde la pointe d'un, et il voit la lune conjointe. Il tombe, il dit, oh là là, qu'est-ce que je dois faire, attention, etc. Et on se tâte. Et maintenant, il regarde la 7. Ah, moi j'ai une fille, qui pensait aujourd'hui, parce qu'elle me donne du tracas. Elle a la balance pour l'ascendant. Ah, mais elle a Vénus conjointe qui tombe à 4 degrés et demi. Elle les a en 9. Alors, pour savoir un ego qui balance, on voit les choses comme ça, et patatras pour tout ce qui est l'autre côté. Puis, au moment où on s'y attend le moins, alors on voit ça. Alors, moi j'ai des étourdissements, je vois 36 chandelles. Je vois littéralement 36 chandelles. Téléphone, hier, tout était terrible. Tout le monde était terrible. Les pires jugements surtout, négation générale. Qu'est-ce que vous allez prendre aujourd'hui au téléphone? Le plan, c'est un bon martini pour me donner la force de tenir le téléphone, très agréable, très gentil, très oiseau, léger, me parle de choses sans aucune espèce d'importance, plutôt cocasse, comme bien, l'oiseau a pondu un œuf, dans la maison, c'est une chose extraordinaire, c'est une petite perruche qui a fait ça, c'est un événement, et puis l'autre jour, elle me dit, je t'annonce quelque chose de formidable. Bon Dieu, quoi, qu'est-ce que c'est maintenant? Mais la voix était tellement heureuse que je me suis dit, c'est pas encore une catastrophe. Non, c'est que, enfin, une 4 ou 5 perruches qui se baguaient chez eux, eh bien, il y en avait une qui avait décidé de prendre un œuf. Elle m'annonce ça, c'est un événement colossal. La veille, on croyait que le monde disparaissait dans un trou, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas l'ordre.